Salut à tous, c'est l'heure de Terre débattue, votre podcast quotidien pendant Roland-Garros. Une journée marquée évidemment par les demi-finales, messieurs, avec les qualifications de Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic pour la finale. Pour évoquer tout ça, nos trois débatteurs du jour sont là et bien là, Camille Pin, Bertrand Milliard et Laurent Vergne. Salut à tous les trois.
Salut
les garçons.
Salut à tous les trois. Dans la pénombre de Roland-Garros.
Nous débuterons évidemment avec un débat autour de l'affiche Nadal-Djokovic, puis nous enchaînerons avec la question qui fâche suivante. Est-ce la fin du règne de Nadal à Roland? Sans oublier la stat de Je 7 et Mat, le compte Twitter dont nous sommes partenaires et l'affiche de samedi avec la finale dames. Terre débattue, c'est parti. Le débat du jour concerne donc la demi-finale Nadal-Djokovic. Je me suis appuyé sur la déclaration de Djokovic à la fin du match au micro de Cédric Pioline. Il a déclaré « C'est le plus grand match que j'ai joué ici à Paris, c'est sûr ». Alors, je vous le demande tout simplement, est-ce que pour vous, c'est son plus grand match qu'il a joué ici face à Nadal ?
Je trouve que c'est certainement vrai pour un tas de raisons. Déjà pour l'ambiance, il l'a souligné d'ailleurs juste après, Adrien, l'ambiance était incroyable, c'est la plus grosse ambiance jamais vue à Roland-Garros, ça c'est certain.
Avec 5000 personnes.
Avec 5000 personnes seulement.
Avec seulement 5000 personnes.
La plus particulière en tout cas.
Avec cette ambiance de night, etc. Bon, en plus, il y a eu pendant longtemps, on a regardé le chrono, on ne savait pas s'ils allaient pouvoir rester, etc. Mais ce soir, il y aurait eu une émeute, il y aurait eu le GIGN, hein, si on avait demandé plus de partir.
Il y a eu une dramaturgie de début à la fin.
C'était hallucinant. Donc après, il faut quand même se rendre compte du monumental exploit réalisé par Novak Djokovic aujourd'hui, en commençant de façon dramatique son match, en perdant les 5 premiers jeux. En revenant bien sur la fin du premier set sans s'énerver, mais en perdant quand même la première manche, je redonne quand même cette statistique qui nous est venue pendant le match de Josset et Matt de Constance. Nadal était à 117-0 au meilleur des 5 sets sur terre battue après avoir gagné la première manche. 117-0. Donc c'est la première fois qu'un joueur, après avoir perdu la première manche dans un match au meilleur des 5 sur terre, parvient à le battre. C'est monumental. Et en plus, c'est avec un niveau de jeu effectivement extrêmement élevé. Particulièrement, l'apothéose de ce match a été le troisième set et la fin du troisième. C'était exceptionnel, avec la possibilité pour les deux joueurs de le remporter. Nadal a eu l'occasion à 6-5. Djokovic a serré le jeu, il a fait un gros tie-break. Il a été très bon dans son jeu offensif aujourd'hui. Et malgré tout, il n'est pas très bon dans le petit jeu aujourd'hui. Il n'est pas très bon au filet, il a fait beaucoup d'erreurs au filet. Et malgré ça, il arrive à gagner en 4-7 parce que tout le reste a été exceptionnel. Et je vais dire de plus en plus exceptionnel au fil du match. C'était de plus en plus fluide, ça sortait de mieux en mieux. On a l'impression que la lucidité était complètement présente.
Il a mieux fini, ça c'est sûr. Oui.
Alors que Nadal était, je pense, au quatrième set. À partir du moment où il a été débré au quatrième, il a pris un gros coup au mental et au physique aussi.
Donc c'est le plus grand match de Djoko à Paris, Camille ?
Ici, je pense, hein, quand même.
Oh, et puis, moi, honnêtement, il y a tout ce qu'a dit Bertrand sur le côté night session qui, pour moi, change une atmosphère. Pour les joueurs aussi, il y a pour le public, il y a pour les téléspectateurs, mais pour les joueurs, c'est quand même quelque chose d'unique sur terre battue d'avoir cette night session. Et moi, ce qui m'a le plus surprise, c'est la manière avec laquelle il a joué Novak, d'une agressivité. Je ne l'ai jamais vu jouer comme ça. C'est-à-dire qu'en général, lorsqu'il fait des grands matchs, il a une précision, une justesse de jeu, le petit jeu dont tu parlais justement, Bertrand, où il est exceptionnel, où il arrive à brouiller les cartes. C'est comme ça qu'on connaissait Novak. Et là, aujourd'hui, on a eu un Novak ultra agressif, ultra percutant dès le retour. Il a tout lâché. Pour moi, il était en état de grâce. Parce que même sur certaines défenses, il tombait sur la ligne.
Qui maîtrisait tout le court à la perfection, avec une envie de faire mal en permanence. Ça a été la même chose pour Rafa, hein. Ils se sont mis des coups de punching ball tout le temps, et c'est rare de les voir comme ça tous les deux, pas sur un mode défensif attaque à tour de rôle, mais tous les deux en même temps en mode attaque. Extraordinaire.
On dit souvent, de toute façon, pour avoir un grand match, il faut deux grands joueurs. Laurent, toi, tu situes où ce Nadal Djokovic?
Alors, c'est toujours difficile à chaud parce qu'on est pris par, par ce qu'on a vécu, par l'excitation. Et moi, honnêtement, ce soir, j'ai vraiment vécu un très, très grand moment sur le cours Philippe Châtrier. C'est marrant parce que la semaine dernière, on parlait de… J'évoquais ce qui, moi, me manquait dans le nouveau Roland-Garros.
J'ai pensé à toi, Laurent, pendant ce match. Tu dis « je veux un grand match » et peut-être que beaucoup de fans de tennis attendaient comme toi. Et ils nous l'ont offert.
Ah ben, oui, je pense qu'ils nous l'ont offert. Mais moi, surtout, je pensais qu'on ne vivrait plus jamais ce dont je parlais avant qu'il y ait les lumières, avant qu'il y ait les night sessions, avant qu'il y ait le toit, qui étaient les fins de match au crépuscule à Roland, où on est dans l'urgence parce qu'on sait qu'on n'a plus qu'une heure ou une demi-heure ou 20 minutes de jeu avant que la nuit arrive et que le match soit reporté. Et là, on savait que le match finirait, mais on a retrouvé un petit peu ça au sein du public. Parce que le public, et nous, pareil, les journalistes, on a passé notre soirée, évidemment, à regarder le match, mais à regarder notre montre en disant, bon, là, 22h45, ils vont annoncer que le public doit s'en aller, ce match va se finir à huis clos. Et donc, il y avait ce sentiment d'urgence qui a rendu l'atmosphère très, très, très particulière. Et c'est vrai que c'était une ambiance dingue. Il n'y avait que 5000 personnes. Le stade était aux deux tiers vide. Et pourtant, il y avait vraiment une ambiance complètement folle. Ah ouais. Et à partir de 22, dans ce troisième set, qui est vraiment un monument. Honnêtement, je ne sais pas où situer comme ça à chaud ce 58e Nadal Djoko dans les 58 qu'ils ont joué. Ce sera un des plus marquants. En revanche, je pense que le troisième set, moi, même sans parler que de Nadal et Djokovic, c'est un des sets les plus incroyables que j'ai jamais vu. Monstreux. La qualité du jeu, l'intensité, les rebondissements, le courage des deux joueurs. Et puis, l'atmosphère autour, parce qu'il y avait cette horloge qui tournait et qui donnait un sentiment d'urgence à tout le monde. Et à partir de 22h15, 22h20, il y a eu un changement de côté. Je ne sais plus à combien c'était, à 4-3 ou à 5-4, où le public a chanté pendant 1 minute 30 « On s'en ira pas, on s'en ira pas
ouais, ». C'était à 5-4. Puis, ouais.
À 5-4, voilà, il y a eu des forgés d'émissions. Après, on a eu quand il y a quand même un moment, je ne sais pas si les gens s'est bien entendu à la télé, mais à 22h45, juste à la fin du troisième set, il y a Marc Maury, le speaker de Roland-Garros, qui prend le micro et qui commence à dire « Mesdames et messieurs ». Et là, tout le stade croit qu'il va annoncer que les gens doivent rentrer parce que c'est l'heure. Donc, il y a une bronca délirante. Et le pauvre Marc Maury doit s'y reprendre trois ou quatre fois parce qu'il n'arrive pas à se faire entendre.
Et en fait, l'annonce en fait, qu'il avait à faire… Il commence sa phrase par en accord avec les autorités.
Et
au moment où il prononce « autorité », c'est une bronca terrible parce que tout le monde pense qu'on va dire en accord avec les autorités, il faut quitter le stade, etc. Alors que moi, j'ai compris dès qu'il a dit accord, j'ai compris que c'était bon. Mais de toute façon, ça ne pouvait qu'être bon. Ça faisait nous, j'étais avec des collègues autour de moi.
Non, c'était impossible d'évacuer.
Ils étaient absolument dans cette ambiance, absolument impossible. Le public ne serait pas parti, il y aurait eu une émeute, ils auraient cassé des sièges, j'en sais rien.
Je pense que le fait que Amélie Castera est un poste très important à la Fédération française a peut-être facilité les discussions avec l'Élysée et Matignon, puisque Gilles Moreton a confirmé que ça s'est fait en liaison directe avec Matignon et avec l'Élysée. Et Amélie Oueda Castera, c'était une camarade de promotion d'Emmanuel Macron à l'ENA, je crois. Et elle avait été pressentie pour être ministre des Sports, donc ça a peut-être facilité un peu les choses. Mais en tout cas, voilà, pour revenir à ce qu'on a vécu, ce troisième set, cette atmosphère, c'était vraiment extraordinaire. Après, peut-être que pour que ce match soit vraiment légendaire et peut-être à la hauteur de la finale de l'Open d'Australie 2012, bah, il a manqué que Nadal tienne la distance. Et c'est vrai que le match…
Il a fallu un cinquième peut-être.
C'est fini avec ce troisième set, ce match quasiment.
Oui, mais donc, ce qui le rend légendaire, c'est la stat que j'ai donnée tout à l'heure.
La portée de la victoire de… Moi, je parlais vraiment… Le match purement lui-même. Mais tu as raison, on ne peut pas isoler un match.
À 2-0, on ne se doute pas une minute que 2-0 pour Nadal au quatrième quand il break, on ne se doute pas une minute que Djoko peut gagner le match en 4-7. On est sûr.
Le truc, c'est qu'en fait, il y a eu, comme l'a dit Laurent, cette atmosphère absolument démentielle au moment de l'annonce, etc. Et de par l'intensité du troisième set, elle est énorme. Là, ils partent au vestiaire un petit peu, etc. Donc, il y a vraiment l'intensité retombe d'un coup, elle retombe bien. Quand même, au début du quatrième, il y a beaucoup moins d'ambiance. Tout le monde doit se calmer, le public, les joueurs. Et je crois que Djokovic, c'est normal, il y a un petit relâchement au début du quatrième set, dont Nadal profite pour mener 2-0. Et très vite, l'intensité revient parce qu'il très vite, il la remet, en fait, tout simplement lui-même. Le petit relâchement qu'il a eu, il est très vite revenu à son niveau. Et je crois que le débreak a fait extrêmement mal à Nadal.
Rafa était cuit. Je crois pas qu'il pouvait gagner ce match en 5-7.
Le jeu d'affilée, quand même, il y avait un petit souci.
Ça, oui.
Mais oui, non, ça, c'est sûr.
Qu'il aurait pu. Pour moi, vraiment, à partir de 5-0 dans le premier, alors après, les fans de Nadal diront c'est Rafa qui a été mauvais. Les fans de Djoko diront c'est Djoko qui a été bien meilleur. Mais pour moi, à partir de 5-0 dans le premier, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas photo entre les deux, mais Djokovic est très au-dessus. Et pour moi, Nadal, il tient cette troisième manche. Il a une balle de 7, c'est ça qui est fou.
Oui, mais le 7 à 6-5.
mais il s'arrache, il est au courage, il est à la grinta, et je pense qu'il est porté aussi par cette ambiance. À huis clos, je pense qu'il le perd peut-être beaucoup plus tôt, ce set. Mais quand même, Djoko était vraiment au-dessus.
Oui, on l'a vu aussi, c'est toujours un baromètre intéressant chez l'Espagnol. On l'a vu baisser de niveau assez rapidement côté revers dans ce match. Il a bien démarré, très bien même. Et il a fait au fil du match de plus en plus de fautes côté revers. C'était de moins en moins stable de ce côté-là. Et forcément, Djokovic l'a vu aussi. Évidemment, côté coup droit, il est toujours capable de faire des choses énormes. Il l'a fait encore tout au long de ce match. Mais côté revers, il a vite, il a vite baissé de pied. Et puis, le coup dont il parle depuis le début de la tournée sur terre battue, le service, encore une fois, aujourd'hui, très délicat, 7 ou 8 doubles fautes. Beaucoup de jeux de service perdus.
Un pourcentage de première assez faible, notamment en quatrième.
Et beaucoup de jeux de service perdus, encore une fois. Et face à des joueurs de calibre un peu moins important, contre un Schwartzman, contre lequel on peut breaker beaucoup plus facilement aussi, mais contre un Novak Djokovic, qui est en plus le meilleur relanceur du monde, ça passe plus forcément. On perd trop souvent son service.
On va intégrer la stat de jeu 7 et mat justement pour illustrer ce que tu es en train de dire, Bertrand. Faut savoir que Rafael Nadal a concédé 22 balles de break dans ce match-là. Ce n'est que la deuxième fois de sa carrière qu'il concède autant de balles de break dans un match. La précédente fois, c'était à l'US Open 2011. Il avait concédé 27 balles de break et donc là, 22 balles de break.
Parce que j'ai souvenir d'une finale de Roland contre Federer où Federer, je crois, a une vingtaine de balles de break aussi, où il break deux ou trois fois, ça avait été terrible pour lui. Je ne sais plus si c'est 2006 ou 2007, Bertrand, je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose.
Je ne sais pas laquelle scène, hein. peut-être 2007. Ouais.
Mais c'était un peu le...
C'est vrai que c'est une arme qu'il n'avait pas ce soir, Rafael Nadal. On a
Il n'avait pas, et puis il y a une qualité de retour là, chez Novak, j'ai rarement vu s'engager avec autant de violence. Parce qu'il peut s'engager, il a quand même un jeu où il prend la balle montante, où il rentre dans le terrain, mais c'est souvent pour commencer à distribuer, à construire. Là, dès le retour, notamment croisé, il vient sortir dans le quatrième, mais je n'ai jamais vu s'engager avec autant de violence. Donc, tout ça aussi montre que la stat est complètement juste entre son manque de première balle et cet engagement hallucinant. Nouveau, moi, je trouve, chez Novak. Je n'ai jamais vu comme ça.
Et autre chose, vas-y, dis.
Bertrand, par rapport à ce qu'a fait Novak et à sa qualité de retour, mais il y a aussi à un moment donné, il lui a pilonné le revers, ça vous l'avez dit, voilà. Il a utilisé très souvent son coup droit court croisé, et à chaque fois il marquait le point, il regardait son staff, et je pense que c'est quelque chose qu'il a intégré, c'est un détail, hein, mais cette variation avant-arrière en pilonnant le revers, en variant justement les distances, un peu plus court, un peu plus long, parce qu'à un moment il jouait très long puis plus court. Ça n'a pas permis à Rafa Nadal de se remettre dans le rythme côté revers, et c'est ce qui a fait que il est devenu vraiment meilleur au fil du temps, Novak Djokovic.
Adrien, ce qui s'est passé par rapport à la fin du match de Berrettini, vous avez fait le débat, je crois, hier ou avant-hier, sur son comportement dans ce match, en cette fin de match, extrêmement nerveux.
Il était très calme
aujourd'hui. La façon dont il termine, d'abord le coup de pied dans les publicités, ensuite c'est ce regard halluciné vers son clan, enfin, cette fin de match qui a fait beaucoup couler d'encre. Aujourd'hui, il perd les 5 premiers jeux du match, il est complètement surclassé au début, 5-0, il ne bronche absolument pas, et même dans les jeux qui suivent, c'est pour ça qu'il regrette, 5-1, 5-2, 5-3, c'est pas loin de revenir à 5-4. Il ne bronche absolument pas. Il le dit à la fin. En tout cas, effectivement, tout ce qu'il a dit à Cédric Pioline était intéressant. Il a dit aussi, j'essaie de travailler sur mon comportement, et j'ai essayé dans ce match de travailler mon comportement. Il a un comportement totalement exemplaire aujourd'hui. Absolument rien à dire. Un comportement de champion. Là, vraiment, il n'y a pas de côté négatif sur son comportement aujourd'hui. Et ça l'a aidé aussi certainement à gagner ce match. Donc, peut-être que ce qui s'est passé contre Berrettini, il a dû se dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé à la fin? Pourquoi j'étais aussi nerveux? C'est arrivé souvent dans sa carrière. Hein, l'US Open, bien sûr, où il est disqualifié l'année dernière. Là, il reste imperturbable de A à Z. Peut-être parce qu'il est outsider. C'est souvent comme ça avec Djokovic aussi. Hein, il est parfois meilleur quand il peut être outsider. Et ça l'a peut-être aidé à rester calme, mais son comportement aujourd'hui est impeccable.
Et ce qui est marrant, Bertrand, c'est qu'il l'avait dit, ça n'en était pas caché, il avait été très nerveux contre Musetti au début du match, il était très nerveux contre Berrettini, et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors il y avait de la tension, évidemment qu'il y a de la tension dans un match comme ça, mais que ce soit dans le négatif ou dans le positif, il a été très très peu démonstratif jusqu'à ce troisième set où il y a à un moment donné un échange de points où il harangue la foule, mais c'est quasiment la première fois du match presque où il serre le point, où il se... jusque-là il était très très mesuré, et que ce soit quand ça allait pas ou quand ça allait bien. Et je pense que ouais, il était vraiment aujourd'hui complètement dans son truc, complètement dans son match. Il était très sûr de lui, alors qu'on l'avait... on l'avait dit, il y avait des questions autour des deux d'ailleurs, hein. Il y avait des petites interrogations. Bah, aujourd'hui, les interrogations, on a vu qu'elles étaient très justifiées côté Rafael Nadal, sur ce qu'on avait vu notamment pendant une bonne heure contre Schwartzmann, et finalement beaucoup moins pour, du côté de Novak.
Et Camille, peut-être aussi que les conditions, le fait de jouer en deuxième match, le fait de finir tard, hein, donc avec beaucoup plus de fraîcheur, avec une terre battue forcément très différente de celle de l'après-midi, c'est quand même un avantage plutôt pour Djokovic par rapport à Nadal. Ça.
Oui, mais vas-y.
Oui, légèrement.
On avait dit la même chose en octobre, et finalement que le froid.
Ah ouais, mais il y a 8 mois de plus, hein, depuis. Hein.
Non, mais c'est sûr. Mais après, un Novak qui s'engage moins, il passe pas, même si Rafa était moins bien à un moment donné. Bien sûr que peut-être la balle de Rafa giclait un tout petit peu moins, que ça lui a permis de s'engager avec plus de violence, avec plus d'engagement. Mais c'est vraiment un détail, et le niveau de Novak sur la durée était juste exceptionnel quand même aujourd'hui, ouais. Peu importe les conditions.
Vous évoquiez, Laurent, la baisse de régime, un petit peu les interrogations autour de Rafael Nadal. Ça va être l'occasion de nous poser cette question qui fâche sur la fin du règne potentiel de Rafael Nadal dans le futur. On lance le jingle et on y va.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
La question qui fâche aujourd'hui concerne Rafael Nadal, qui s'est incliné donc en demi-finale du tournoi de Roland-Garros face à Novak Djokovic. Je vais poser la question tout simplement. Est-ce que c'est la fin du règne de Nadal du côté de la porte d'Auteuil, Laurent?
Pas forcément, non. Pas forcément, parce que c'est sûr que c'est peut-être sa défaite la... Enfin, je ne sais pas si c'est la plus nette, parce qu'en 2015, il prend 3-7 contre Djokovic, mais 2015, il était vraiment assez loin de son meilleur niveau, Rafa. Et 2009, bon, c'était un match particulier.
Face à Söderling.
Il fait un match de mutant, lui était un petit peu blessé. Là, on est en demi-finale, il n'avait jamais perdu après l'écart. Donc, on en avait parlé, c'était assez très possible d'imaginer Djokovic gagner, mais on avait du mal à imaginer Rafa perdre. Maintenant, même en étant dominé aujourd'hui, encore une fois, il a quand même une balle de 7 pour mener de 7-1. Il est en demi-finale. Je continue de penser qu'il n'y a qu'une toute petite poignée de joueurs, et même peut-être qu'un seul joueur capable de le battre ici en 3-7 gagnant, c'est Novak Djokovic. Donc, fin de règne, non, pas forcément, parce que tant qu'il sera physiquement à un haut niveau, le battre sur terre battue en 3-7 gagnant, donc à Roland-Garros, ce sera une sacrée tannée pour 99,9% des joueurs du circuit.
Et là, surtout, compte tenu du niveau qu'a joué Novak, sachant que Rafa, au niveau des premières balles de service, elle n'a pas aidé aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça a été un concours de circonstances qui a fait que la Novak était en état de grâce. Ça ne veut pas dire que, ça y est, Rafa ne gagnera plus Roland-Garros. Moi, je n'y crois pas une minute.
Oui, mais d'ordinaire, d'ordinaire, ça tombait plutôt du côté de Roland. Et là, cette fois-ci, ça tombe du côté de Djoko.
Non, mais la question, elle est vraiment, comme l'a dit Laurent, dans le physique de Rafael Nadal. Là, tu viens de dire tout à l'heure, Adrien, oui, on s'était posé la même question il y a 8 mois pour le froid, la surface, etc. Ben oui, mais c'était il y a 8 mois. Mm-hmm. C'était il y a 8 mois. Et depuis 8 mois, Rafael Nadal a pris un petit peu d'âge en plus. On voit que chaque saison, ses débuts de tournée sur terre battue sont de plus en plus durs. Si tu te souviens du niveau qu'il avait à Monte Carlo, hein, par rapport à ce qu'il avait aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait la même. Même à Madrid.
Novak aussi à Monte Carlo, il était.
Tout à fait. Oui, mais Novak, il a un an de moins et il est physiquement encore totalement au top. Alors, je ne dis pas que Nadal n'est pas au top physiquement, mais forcément qu'il y a un moment donné, comme pour Roger Federer, ces joueurs-là aussi, ils vont regarder la montre. Et pas que pour savoir si le public va rester, ils vont regarder la montre pour savoir physiquement comment et s'ils sont toujours au top, au top, au top. Il a quand même 35 ans, il a fêté 35 ans dans ce tournoi. Les années passent et je suis d'accord. Il n'y a qu'un Djokovic de ce niveau qui est capable de le battre ici à Roland-Garros, de gagner 3-7 contre lui, ce qui est déjà ce qui fait quand même très peu. Et ce qui effectivement oblige à répondre à la question, à ta question, non. Non, il n'est pas fini à Roland-Garros. Même l'année prochaine, à 36 ans, s'il n'y a pas un Djokovic en super forme, qui va aller le battre? Il faudra que Tim récupère un sacré niveau ou que Tsitsipas encore progresser, etc. Donc, non, ce n'est pas fini, évidemment. Mais les années passent. Elles sont passées pour tout le monde. Mais on a vu qu'un Roger Federer a su, par exemple, à pratiquement 36 ans, puis pratiquement 37, gagner encore. Alors, 36 ans contre Nadal, gagné à l'Open d'Australie après un long arrêt. Donc, ces joueurs-là sont tellement hors normes qu'on ne peut jamais répondre non ou de façon certaine à ces questions. Mais il est certain aussi que les années passent et que l'année prochaine, il aura 36, parce que maintenant, c'est vraiment dans un an le prochain. Et que, évidemment, année après année, ça va être de plus en plus difficile.
Ça me fait penser à quelque chose, Bertrand, ce qu'on disait il y a quelques années. On le dit un peu moins, on l'entend un peu moins. Le côté Nadal a un jeu qui demande un énorme physique et on ne sait pas combien de temps ça va durer, combien de temps son corps va tenir. On l'entend un peu moins, ça, mais là, peut-être que c'est en train de le rattraper.
Il a évolué son jeu, il a évolué. Ouais.
On l'entendait quand il avait 20 ans, 21 ans, 22 ans.
Mais peut-être que ça commence à le rattraper à 35 ans.
Ah ben de toute façon, il y a forcément un moment où ça va le rattraper. Oui, ça c'est sûr, c'est plus dur à 35 qu'à 25 et ce sera encore plus dur à 36, à 37, à 38 et je ne sais pas jusqu'à quand il va jouer. Ce que je veux dire, c'est que il est aujourd'hui tennistiquement et physiquement encore au top niveau. Alors peut-être un peu moins fort qu'il ne l'était l'année dernière ou il y a 2 ans, sinon il n'aurait pas perdu aujourd'hui. Mais il n'a pas perdu au deuxième tour contre le 45e mondial. Il a perdu contre un super Novak Djokovic. Donc, je pense que on peut pas. Déjà, avec ces joueurs-là, je pense qu'on doit. J'espère qu'on a appris nos leçons depuis des années sur le côté le déclin, c'est fini, c'est sa dernière chance, etc. La dernière chance de Federer, je l'ai entendu dès Wimbledon 2014, je me rappelle.
2013,
on disait en finale.
En 2013, on disait qu'il était fini, en fait. Tout le monde disait qu'il était fini.
En 2013, il était fini. 2014, c'était sa dernière chance, etc., etc. Donc non, Nadal, il est aujourd'hui peut-être, il est peut-être à un set de gagner. S'il gagne le troisième, il est à un set de gagner cette demi et derrière, il aurait été favori de la finale. Donc il n'est pas si loin. Donc non, franchement, je pense que il a encore les clés de son avenir à Roland-Garros. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui lui seront capables de le battre. Peut-être, Bertil l'a dit, il y a des joueurs qui ont encore une grosse marge de progression plus que lui. Mais ce serait lui manquer de respect et même l'insulter, je pense, et insulter ce que tous ces champions ont fait depuis 15 ans que de dire Nadal, c'est terminé, il gagnera plus Roland-Garros.
Parce que là, il faut quand même se rendre compte que ce soir, on est dans une autre dimension. Adrien, je pense que vous serez tous d'accord avec moi.
Ah oui.
Dès qu'on a ces joueurs-là face à face,
la différence c'est une autre dimension.
On a deux des trois plus grands joueurs de l'histoire du tennis et c'est exceptionnel. On a eu des belles choses dans la première demi-finale, mais c'est exceptionnel. On ne verra plus ça. Moi, je pense qu'on ne verra plus ça. C'est parce que ces joueurs-là, des joueurs à 20 grands chelems, je ne pense pas qu'il y en aura encore après. En tout cas, pas trois en même temps. Et ces joueurs-là sont au-dessus. C'est une dimension. C'est impalpable. Quand on est dans le stade, on le sent tout de suite. Moi, je suis resté du premier au dernier point, mais je n'ai pas bougé, mais je n'avais pas envie de bouger. Chaque point est important. Chaque point, c'est intense. Ce sont des joueurs qui sont absolument démentiels. Et quand ils sont l'un en face de l'autre, c'est fabuleux. Et je ne pense pas, même aussi fort que soit la génération qui vient, je ne pense pas qu'on pourra dire la même chose. Parce que là, c'est du jamais vu dans l'histoire du tennis, tout simplement. Et en plus, on a ce jamais vu avec des joueurs de la même génération. C'est dingue.
C'est tout à fait une belle déclaration d'amour au tennis de ces deux-là.
C'était leur 58e match.
C'est trois, là.
Ils arrivent encore à bluffer, quoi. C'est... Mm-hmm. C'est ça qui est dingue.
Pour conclure sur cette question qui fâche, répondez-moi juste par oui ou par non. Est-ce que j'ai du mal vraiment avec ce prénom. Est-ce que Rafael Nadal regagnera Roland-Garros un jour? Oui. Allez-y.
Oui, Adrien.
Faut se mouiller.
C'est plus la même question.
Moi, je vais dire non.
Ok.
Je vais dire non. Je me mouille, voilà, en disant non.
Bah, très bien.
Non, honnêtement, j'en sais rien du tout.
C'est sûr qu'on n'en sait rien.
Joker bah, pour
oui,
Laurent.
Non, mais... moi, je dis oui à fond.
Il y a trop de paramètres qui. Mais si pour répondre, évidemment, s'il se pète le genou dans 6 mois, ce sera compliqué pour la suite. Mais si physiquement,
ouais, c'est hyper,
il n'a pas de graves blessures, oui, je pense qu'il regagnera Roland-Garros.
Très bien.
Il ne faut pas être inquiet de la défaite aujourd'hui face à Djokovic.
Non, enfin, c'est pas la fin du monde.
C'est juste d'un niveau hallucinant. Donc, il n'y a pas du tout faux au lac. Hein.
Super. On va passer sur la finale que nous aurons samedi sur le cours Philippe Châtrier. La finale dames, ce sera l'affiche du jour. L'affiche du jour oppose Pavlyuchenkova à Krejcikova, une affiche inédite entre la 32e mondiale et la 33e mondiale. C'est la première confrontation entre les deux joueuses. Alors Krejcikova qui a battu Sakkari en demi, qui avait elle-même battu Świątek, on avait dit, voilà, c'est maintenant elle qui a la pancarte. Est-ce que c'est Krejcikova qui a la pancarte désormais ou pas, Camille?
C'est tellement particulier cette finale. Non, honnêtement, de toute façon, c'est la première fois toutes les deux qu'elles sont sur une finale de Grand Chelem. Ça va être du grand n'importe quoi. On ne peut rien prédire de cette finale, Adrien.
C'est bon pour les pronos. C'est bon pour les pronos.
Ah non, mais je suis d'accord.
C'est bon. Ça sera ouvert.
Ouais, exactement.
Non, aujourd'hui, il y a Pavlyuchenkova qui a cet atout d'avoir été dans le top 15. C'est-à-dire que ça fait des années, des décennies qu'elle est là. mais elle n'a jamais vécu ce que c'est.
Elle était très forte,
donc ça va faire peut-être 20 ans qu'on la voit. Non, elle a évidemment peut-être tennistiquement potentiel pour, si elle se lâche vraiment, le potentiel pour être au-dessus de Krejcikova. Par rapport à sa puissance, par rapport à sa prise de balle, à ce qu'elle a pu démontrer. Parfois, quand elle joue bien, on ne peut pas jouer face à cette joueuse. Donc, pour moi, c'est les Osaka, les Williams, quand elle vous empêche de jouer, c'est-à-dire qu'elle vous empêche de vous exprimer. Si elle arrive à faire ça, elle va pouvoir peut-être aller chercher ce grand chelem. Je pense qu'en début de quinzaine, elle ne s'imaginait jamais être en finale. Enfin, c'est une histoire de dingue pour toutes les deux. En revanche, il va y avoir énormément d'émotions. Bien évidemment, ça, ce n'est pas une surprise. Oh là là, et Krejcikova, oui. Depuis le début de cette quinzaine, est hallucinante sous pression. Elle a remporté des matchs face à Goff, face à Sakkari. C'est elle, dans les moments mais ultra chauds, qui a sorti les meilleurs coups. Donc, attention à cette capacité mentale qu'elle a. Sous ses airs de « je suis une joueuse, je joue mes matchs, elle est en finale du double, je joue comme si je jouais le dimanche sans me prendre la tête », elle peut être extrêmement dangereuse pour Pavlyuchenkova dans les moments importants. Et on sait que cette finale va quand même se jouer à la gestion des émotions. Donc, ouais, très difficile de gérer cette finale. Ouais.
Camille qui dit ce sera du grand n'importe quoi, à l'image de ce tournoi féminin, qui est du grand n'importe quoi. C'est, je ne veux pas dire un désastre, parce que ce serait dur pour les deux finalistes.
Parce que sportivement, elles ont été énormes, les deux finalistes. Hein.
Oui, bien sûr. Non, bien évidemment. Mais c'est quand
elles
même.
Elles ont profité de.
C'est quand même quelque part un désastre. C'est quand même un cataclysme. C'est-à-dire qu'on a. Déjà, on a Simona Halep qui se blesse avant. Halep, une de moins. Barty se blesse pendant. Autrement. Osaka nous fait son histoire de la presse et quitte le tournoi. Et de 3. Kvitova se fait la cheville sur un plateau télé. Et de 4. Non, mais c'est absolument aberrant. Et donc, c'est quand même 4 joueuses qui peuvent gagner le tournoi. Et Świątek nous a le match le jour 100 sur son quart de finale. Elle passe à côté avec peut-être un petit peu de blessure. Enfin, je ne suis pas sûr parce qu'elle est quand même en finale du double. Voilà. Et on a une Krejcikova qui peut succéder à Marie Pierce, la première à gagner simple et double ici depuis 2000, depuis Marie. Marie Pierce qui a gagné avec Kingis en double et qui a gagné en simple. Mais la finale, elle est absolument impronosticable, mais elle est à l'image de ce tournoi. Les 8 premières têtes de série sont éliminées avant les quarts de finale. C'est du grand n'importe quoi. Donc, à partir du moment où c'est du grand n'importe quoi, ça devrait l'être jusqu'au bout. Et donc, on va avoir une finale qui devrait être effectivement, comme l'a dit Camille, un peu du grand n'importe quoi aussi. Mais je suis d'accord, Krejcikova a montré des prédispositions mentales assez incroyables dans ce tournoi. La demi-finale, elle peut la perdre. Hein. Elle est quand même menée large 3-1, 4-2 au troisième. Mais on sentait qu'elle gérait beaucoup mieux les émotions que son adversaire. Elle a sauvé une balle de match de façon magnifique, une balle de finale. Et elle a, derrière, réussi à terminer ce match en jouant mieux, en étant plus lucide que son adversaire. Donc, je connais un petit peu Anastasia Pavlyuchenkova, je la connais pas mal même. Elle est très nerveuse comme joueuse, elle a toujours été toute sa carrière. Ça lui a souvent joué des tours à la russe. Là, elle a réussi quand même à bien gérer ses émotions. Il y a notamment un 9-7 contre Rybakina qui est très important au troisième en quart de finale. Mais en finale, le Grand Chelem, j'espère pour elle qu'elle ne va pas être rattrapée par ses émotions parce que je crois effectivement que Krejčíková les gère mieux. Donc, petit avantage là-dessus sur le plan mental à la Tchèque.
Et ce qui est fou, c'est que Krejčíková, elle a quand même raconté dans une conférence de presse qui était très forte. C'était après son huitième de finale. J'avoue, j'ai un trou de mémoire. Je ne sais plus.
C'est à Goff, peut-être ?
Non. Goff, c'était en quart.
Ouais.
C'était pas Kenin, non ? Elle n'avait pas battu
Kenin. Non, c'est Sakkari qui a battu Kenin.
Je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire, mais elle gagne 6-0, 6-2 ou 6-2, 6-0. Elle fait une démonstration et elle raconte qu'avant d'entrer sur le court, elle jouait à 11h du matin.
Contre Stevens, non ?
Stevens, absolument. Non. Merci, monsieur Milliard. Ouais. Et elle raconte qu'elle a été bouffée par le stress toute la matinée, au point qu'une demi-heure avant le match, elle ne voulait pas rentrer sur le court et elle pleurait. Et elle a dû discuter avec sa coach mentale qui lui a dit « Écoute, on s'en fout du résultat, mais tu vas y aller, tu vas faire ton match et ce sera, quoi qu'il arrive, une victoire sur toi-même. » Et derrière, elle rentre et elle met 2-0, c'est surréaliste. Donc, c'est une joueuse qui a l'air assez stressée, mais qui effectivement trouve le moyen de maîtriser ses émotions. Maintenant, demain, samedi, c'est une finale de Grand Chelem et c'est une telle inconnue pour les deux joueuses que c'est pour moi un match qui est complètement illisible parce que je pense que tout est possible. Ça peut faire 6-1, 6-1 des deux côtés ou 18 au troisième. Et j'espère que ce sera plutôt un match complètement dingue avec des rebondissements, quitte à ce que ce soit un peu à la Zverev Team à l'US Open, mais qu'on s'en souvienne, quoi. Ça vaudrait le coup.
Je pense qu'il ne faut pas se frustrer de ne pas avoir les meilleurs. On sait qu'en ce moment, le tennis féminin, ce n'est pas nouveau ce qui se passe à Roland quand même.
C'est extrême, disons.
Non, mais c'est extrême.
C'est vraiment extrême. Hein.
C'est extrême parce que tu l'as bien dit, Bertrand, en énumérant tout ce qui s'est passé, on dirait une mauvaise blague. Mais quand même, depuis un moment, il se passe des choses. Quand il y a Ostapenko qui gagne, qui sort de nulle part, qui gagne Roland-Garros en battant Alep. Il y a eu beaucoup de surprises quand même ces derniers temps. Moi, je pense qu'il ne faut pas se frustrer là de ne pas avoir les toutes meilleures, mais d'être intéressé par ces nouvelles joueuses qui vont vivre une émotion particulière et se mettre dans la peau de... moi, si je suis à leur place demain, je rentre sur le terrain d'être intéressé mentalement par comment elles vont gérer.
Ah, mais ce sera sûrement intéressant à ce niveau-là et peut-être que ce serait une très belle finale. Et moi, tennistiquement, honnêtement, Krejčíková, que je connaissais assez peu, je le reconnais humblement, j'ai trouvé qu'elle avait un tennis absolument magnifique.
À l'école tchèque, hein, c'est magnifique. Ça,
oui,
c'est
l'école tchèque, on en parlait avec Bertrand il y a quelques jours.
Côté revers long ligne, c'est sublime.
Ouais, la faculté de la République tchèque chez les filles à sortir des joueuses à gogo dans tous les sens, c'est
incroyable.
Et elle a un parcours assez fou, hein, c'est toute proportion gardée, un peu à la Karatsev. Alors là, elle n'est pas au-delà de la 100e place, mais c'est une joueuse qui, il y a un an et demi, était 150e mondiale.
Elle jouait que du double.
Elle jouait que du double. Donc elle a vraiment percé depuis un an à peu près. Alors là, évidemment, je pense quand même que c'était. Il fallait être très très fort ou la connaître très très bien pour imaginer qu'elle aille en finale de Roland-Garros. Donc oui, je suis d'accord, ce sera peut-être une superbe finale. Ces deux joueuses qui méritent leur place. De toute façon, quand on est en finale, on doit d'excuses à personne. Elles avaient 6 matchs à jouer, elles les ont gagnés. On ne va pas le leur reprocher. Mais c'est vrai que le tennis féminin a quand même besoin aussi de joueuses emblématiques. Et de...
Ah, mais ça, je suis d'accord à 100%. C'est alors, juste elle dans en cette a, période. Hein. Oui, il y en a.
Comme Naomi Osaka a déjà gagné plusieurs grands chelems. Mais ouais. Osaka, c'est un coup très haut, un coup très bas. Donc, c'est vrai que ça
rend... Un peu de constance mentale, ça aiderait à avoir quelques filles qui restent un peu plus longtemps au-dessus des autres.
Il y a des blessures. Andreescu, on pensait qu'elle allait...
Andreescu, elle est en cristal, hein, malheureusement.
Elle a joué 5 matchs.
Ce qui est sûr, c'est que... On n'a pas effectivement un Nadal Djokovic chez les filles, on n'a pas atteint des matchs avec de ce type de niveau, même au féminin, je veux dire. Mais en revanche, honnêtement, hein, moi, je me suis régalé sur la seconde demi l'autre jour. Là aussi, je suis resté de A à Z. Hein. Le Sakkari Krejčíková, c'était passionnant. C'était très intéressant, ne serait-ce que le combat mental justement entre les deux. Alors, tennistiquement, il y a eu C'était moyen parfois, il y a eu des bons moments, d'autres beaucoup moins bons, il y a eu beaucoup de fautes aussi. Mais c'est ça qui fait la force du tennis aussi. Ah bah c'est oui. Même un match moyen peut devenir extraordinaire.
La dramaturgie,
la dramaturgie
rafle tout. Et oui, absolument. Et c'est pour ça que ce Sakkari Krejcikova, moi je me suis régalé encore une fois de A à Z jusqu'à la fin. On ne savait pas qui allait gagner. Il y avait une grosse ambiance, il y avait des joueuses qui en voulaient, etc.
Et j'ai
3h18 quand même. 3h18, c'était un match qui était hyper plaisant à suivre.
Est-ce que physiquement ça va peser ça, parce qu'elle
elle a rejoué en double aujourd'hui.
Elle a rejoué en double. Hein, ouais.
Justement, elle joue simple et double.
Mais elle est arrivée sur le court. Elles ont gagné 6-1, 6-2 avec Siniakova, mais ouais. Comme si elle n'avait pas joué la veille. Le même visage, la même démarche.
Tout va bien.
Ah, une fois où elle s'est étirée pour montrer ah, « je suis un peu fatiguée », rien. Non mais moralement, mentalement, c'est…
Donc on peut s'attendre à avoir un super match samedi.
Bah, elle est peut-être fatiguée, mais elle montre rien.
En tout cas, c'est un doublé. C'est quand même monstrueux, hein, les doublés, il n'y en a pas des masses. Hein. C'est le doublé de l'année, je vous dis, ici, c'était il y a 21 ans. Il y a peut-être Serena et Venus Williams qui en ont fait un petit peu parce qu'elles jouaient le double ensemble. Mais un doublé, si elle arrive à le faire, le doublé, et gagner le titre en simple, titre en double, c'est quand même exceptionnel.
Le simple samedi et le double, elle le jouera dimanche. On va pronostiquer ce match parce que le concours de pronostic, je vais vous le dire, c'est très serré. Bertrand est revenu à 16 points, comme vous. Donc Laurent 16, Camille 16, Bertrand 16. Là, ouais,
on avait tous dit Nadal, je crois.
Vous aviez tous dit, le seul qui a gagné un point, c'est Bertrand en misant sur Pavlyuchenkova. Pas le bon score, mais il avait misé sur Pavlyuchenkova, donc il a marqué un point. Donc là, il reste deux matchs pour vous départager.
Allez, Camille, vas-y.
Allez, moi j'y vais. Pavlyuchenkova en 3-7.
C'est à égalité.
Non, Laurent, ça marche pas comme ça.
C'est bien, égalité, tout le monde.
Alors, vas-y, Camille.
Adrien, Pavlyuchenkova en 3.
Pavlyuchenkova en 3. Vas-y, Bertrand.
Krejcikova en 3.
Et Laurent.
Oh là là.
Tic-tac.
Alors c'est marrant parce qu'il y a une semaine, j'avais dit que je pensais que Pavlyuchenkova pouvait faire quelque chose dans ce tableau. On était au 8e.
Ah là, je prends un risque. Hein. Elle n'est pas favorite. Hein.
Et là, j'ai
fais-toi confiance. Fais-toi confiance, Laurent.
tu sais quoi, je vais mourir avec mes idées. Donc, je vais dire Pavlyuchenkova en 3-7.
C'est beau.
Vous dites la même chose.
Ah, bon, voilà, Bertrand peut faire la différence.
Ou alors vous pouvez aussi me reprendre davantage, mais si elle gagne en 2, par exemple, il n'y aura qu'un point d'écart. Donc ça peut encore,
Bon, merci à tous. Terre débattue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait plaisir. Abonnez-vous aussi pour recevoir les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. D'ici là, suivez bien l'actu sur eurosport.fr. Il y aura plein de trucs sur la finale dames, sur la finale hommes à venir. Et je vous dis à plus tard. Salut.
Salut.
Ciao, ciao.
Salut à tous. Ciao, ciao.